France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Seltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, sans toujours bien comprendre ses intentions. Vous savez peut-être qu'il est milliardaire, sans bien cerner la profondeur de ses investissements. Il parle peu depuis la Belgique, où il s'est exilé pour fuir les impôts, et pour autant il tente de peser sur le débat public national en propageant un discours conservateur, libéral et réactionnaire. Son nom, Pierre-Édouard Stérin, 51 ans, est dans le top 100 des plus grandes fortunes françaises. Celle-ci provient en grande partie des coffrets Smartbox, fort utile pour des cadeaux faciles. Le journal L'Humanité a révélé l'an dernier son projet Périclès, une vaste opération à 150 millions d'euros sur 10 ans pour promouvoir l'union des candidats d'extrême droite et de la droite libérale conservatrice. Dans le sillon de cette ambition électorale, toute une galaxie de participation, des think tanks, des agences d'influenceurs, des écoles, des observatoires pour diffuser une vision du monde qu'il conviendra de bien définir entre évangélisation et inspiration libertarienne. Comme un Vincent Bolloré, il cherche à obtenir des titres de presse traditionnels, mais pour l'instant, il a échoué à mettre la main sur l'hebdomadaire Marianne, le groupe Bayard, mais il vient d'acquérir aujourd'hui, avec d'autres, Valeurs Actuelles. Bref, retour sur une histoire en cours, celle d'un milliardaire à l'assaut de l'opinion publique. Et pour en parler, trois invités en studio. Tout d'abord, Alice Barbe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une activiste engagée, fondatrice de l'Académie des futurs leaders, et vous travaillez sur Pierre-Édouard Stérin depuis longtemps. Vous avez d'ailleurs cartographié ses investissements, un travail précieux, devenu ressource pour des journalistes comme Thomas Lemayeux, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'Humanité, et vous êtes à l'origine des révélations du projet Périclès aux grandes dames du principal intéressé. Et votre enquête a eu un impact en éclairant auprès du grand public les intentions de cet homme réputé discret. Enfin, Laurent Mauduit complète ce plateau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également journaliste, cofondateur de Mediapart et auteur de Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires aux éditions de la Découverte. Ça vient de sortir, l'occasion de mieux cerner ces liaisons dangereuses. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste de Courrier International, notre partenaire, qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Aujourd'hui, Daniel Bastard est au micro. Bonjour Daniel.
Bonjour François, bonjour à tous.
Pour un sujet consacré à...
aux révoltes en Asie de la génération Z.
La génération Z en cours en Asie, on en parle en fin de cette émission. Vous avez le programme complet de l'épisode 4 de la Fabrique de l'Info. Un grand merci pour votre fidélité, vos retours qui sont précieux. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur l'application Radio France ou à nous suivre en direct et en images sur la chaîne YouTube de France Culture ou son compte TikTok. Joséphine Reinhardt qui prépare cette émission à mes côtés lit tous vos messages et vous pouvez directement poser vos questions à nos invités. C'est parti.
Cache pas son admiration pour Donald Trump ou Elon Musk, Pierre-Édouard Stérin. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il compte bien peser à la prochaine présidentielle en France.
Je suis Pierre-Édouard Stérin, j'ai 50 ans, marié 5 enfants, je suis entrepreneur.
Pierre-Édouard Stérin a fait fortune grâce au coffret cadeau. Il veut mettre son argent au profit de l'union des droites, de l'extrême droite. Nom de code, Périclès, budget 150 millions d'euros sur une dizaine d'années.
Ces 80 millions, on va les utiliser pour essayer de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets utiles au redressement de la France et à la promotion du Christ.
Son plan de bataille a un nom, Périclès. Un acronyme signifiant patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen et souverainiste.
Les talents, entre guillemets, qu'on m'a donné au sens biblique du terme, c'est un talent qui consiste à faire de l'argent. Et donc je vais continuer à faire de l'argent et je vais commencer à préparer également l'affectation de cet argent.
Notre envie, c'est de pouvoir contribuer à un changement importante société dans les années qui viennent.
Mais un premier caillou dans la chaussure, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections, il a déjà snobé 3 convocations.
J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés et donc il fallait que j'essaye de faire en sorte, lors de ce passage de vie terrestre, d'optimiser mes chances de devenir saint.
Alors, l'homme est discret, il est de moins en moins depuis que les enquêtes et reportages éclairent son parcours. Néanmoins, il me semble important de revenir sur son arrivée dans le milieu des affaires. Je l'ai dit, il se place dans le top 100 des fortunes françaises. Thomas Lemayeux, comment s'est-il enrichi principalement, Pierre-Edouard Sterrin.
Alors effectivement, il s'est enrichi avec les dividendes de Smartbox, hein, donc une entreprise dont il a acquis une franchise pour l'exploiter en France en 2003, avant de la racheter en 2007 et ensuite de délocaliser son siège en Irlande pour des raisons fiscales. Hein, on connaît les avantages fiscaux qu'offre Dublin aux multinationales. Lui-même s'est exilé en Belgique à cette époque, en 2012.
Au moment de l'arrivée de François Hollande, justement, voilà, au pouvoir.
C'est-à-dire, il devait craindre les chars soviétiques sur les Champs-Élysées, ce genre de choses. Il est parti à Bruxelles à cette époque. Donc, effectivement, sa fortune tient essentiellement, enfin, l'origine de sa fortune tient aux dividendes de Smartbox. Et donc, cette entreprise qu'il n'a pas fondée, qu'il n'a pas inventée, dont il n'a pas inventé le concept, hein, il a acquis une franchise, puis il l'a rachetée. Une entreprise qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, consiste à permettre à des gens d'offrir des cadeaux de manière facile, qui ne sont pas toujours utilisés et qui du coup font du cash pour son propriétaire.
Je crois que ça fait partie d'ailleurs du modèle économique de Smartbox. Hein. Ça marche justement parce qu'on part du principe qu'il y aura un pourcentage assez conséquent de gens qui ne vont pas l'utiliser, l'oublier. Et peut-être que si tout le monde utilisait ces Smartbox, l'entreprise serait moins rentable.
Oui. Oui, c'est ça. Oui, sans doute. Les gens acquièrent un coffret cadeau, le payent, ça va dans les caisses de Smartbox, qui ensuite paye éventuellement les fournisseurs, les hôteliers, les restaurants, une fois que ces coffrets cadeaux sont utilisés. Et quand ils ne sont pas, évidemment, tout revient à Smartbox.
Voilà. Donc une fortune principale qui vient de Smartbox, qui va être réfléchie, redirigée donc au service d'un projet idéologique que l'on va définir tous ensemble. Alice Barbe, ce projet, vous le connaissez bien. Déjà, pour vous situer, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes activiste. Pourquoi vous vous intéressez à Pierre-Edouard Sterrin? D'où vient votre intérêt pour lui?
Pierre-Edouard Sterrin n'a pas inventé la bataille métapolitique de l'extrême droite et tous les outils que ces galaxies ultra-réactionnaires vont mettre en place pour prendre le pouvoir. Avant Sterrin, il y avait déjà quelques écoles, quelques think tanks financés soit par des milliardaires, de millionnaires plutôt d'extrême droite, soit par des puissances étrangères comme la Russie ou des puissances américaines, le réseau Atlas, la Fondation Héritage. Ce qui m'a interpellé avec Pierre-Edouard Sterrin, c'est déjà, je l'ai rencontré à travers le prisme de la philanthropie. Mmh. C'est là qu'il a mis un pied. Quand plusieurs fondations philanthropiques qui financent habituellement des causes qui sont les miennes, hein, l'accueil des réfugiés, les droits, l'égalité femmes-hommes et la démocratie, ils m'ont dit, attends, regarde, il y a un truc qui s'appelle le bien commun, le fonds du bien commun, va regarder. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert le fonds du bien commun, et c'est là qu'il y a un lien avec les investissements de Sterrin, parce qu'il reverse ses bénéfices à son fonds de dotation, donc son fonds du bien commun, qui vise à financer des associations qui sont supposées être d'intérêt général.
Donc en partie sur fonds publics.
Donc en partie nos impôts.
Réaction de Laurent Monduvier, mais on va aller au bout justement. Donc vous étiez dans ce secteur de la philanthropie. Il y a ce nouveau personnage peut-être qui arrive à ce moment-là. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent avec justement ce fonds.
Il a déclaré lui-même dire « je déshérite mes enfants et je donne tout au bien commun ». D'ailleurs, moi-même, à l'époque, je cherchais de l'argent, je lui ai même écrit un message, hein, c'est dire. Mais quand on creuse...
Et vous avez obtenu, non?
Non, jamais. Même pas de réponse, même pas de lecture. Mais évidemment, à l'époque, je dirigeais une organisation pour l'accueil des personnes réfugiées. Et quand on creuse un petit peu ce que fait le fonds du bien commun, on n'y trouvera pas d'organisation qui défende l'accueil des personnes réfugiées ni d'organisations féministes. Ce qu'on va découvrir, en revanche, sont des organisations qui ont un but plutôt très 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 catholique, enfin plutôt lié à l'Église, des accueils pour des femmes qui vont être des mamans solo, par exemple. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on aura peut-être préalablement dissuadé ces femmes d'avorter. On va retrouver des associations plutôt identitaires, comme l'application Canto, qui aujourd'hui s'appelle Chantons. On avait vu cette vidéo d'Emmanuel Macron l'utilisant d'ailleurs, mais en fait, c'est une application qui propose des chants essentiellement fascistes et pétinistes. Et donc, on retrouve tout un... pour ce qu'il montre, hein, en tout cas, on retrouve tout un faisceau d'organisations qui, sous couvert de biens communs et bénéficiant de défiscalisation, vont être liées quand même à une certaine vision de la France.
Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui ont pu bénéficier de l'argent de ce fonds du bien commun, qui ne savaient pas forcément d'où venait la provenance, ni même les intentions de Pierre-Edouard Sterrin, pour mettre un petit peu de nuance. Puis on va essayer de comprendre justement pas à pas ses intentions et quelle vision du monde il défend, et comment justement il utilise différents outils pour le faire. faire. Laurent Mauduit, donc je l'ai dit, vous avez sorti à l'instant, là, il y a quelques jours, cet essai hein, qui parle des relations entre l'extrême droite et le milieu des affaires, et puis donc indirectement aussi des médias. Comment il se distingue justement Pierre-Édouard Sterrin d'un Vincent Bolloré, par exemple, qui est lui aussi classé à la droite de la droite, qui est lui aussi quelqu'un qui va promouvoir les idées religieuses? Comment il se différencie?
Leurs racines et la construction de leur groupe ne sont pas exactement de même nature. Hein. Vincent Bolloré était aussi un catholique ultra-conservateur, partisan de la théorie raciste et xénophobe du grand remplacement. Mais c'est comment dire, il est très enraciné dans l'extrême droite française. Hein. Il a construit son groupe en prenant d'assaut à la fin des années 80 la banque Rivaux, qui était la banque des coups tordus du RPR et de la France-Afrique, hein, donc sur les décombres du capitalisme colonial français. Sterrin, lui, a les mêmes convictions religieuses, mais plus ouvert aux vents extérieurs, et notamment, c'est le seul grand patron ou milliardaire français qui dit « je suis libertarien », par analogie avec ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, mais en même temps, ces nuances sont fines, puisqu'on les retrouve tous les deux dans des projets communs, on en parlera, les écoles de journalisme. Voilà, et la singularité de l'époque dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a des patrons d'extrême droite, Marqué, Bolloré, lui, mais il y a une porosité. Et c'est ça, et pour compléter ce que disait Thomas Lemayeux tout à l'heure, pour raconter son parcours, ses culbutes financières, autour de Smartbox, autour de La Fourchette. Hein. Mais il a aussi
La Fourchette qui était aussi une application pour obtenir des réductions dans différents...
Des réservations ouais. Dans les restaurants, qu'il a acheté puis revendu en faisant une très grosse plus-value. Mais c'est la singularité de l'époque dans laquelle nous sommes. Il y a 20 ans, ces patrons d'extrême droite auraient été des moutons noirs pour leurs collègues du CAC 40 ou les grands patrons. Là, il y a une porosité. Je prends juste un exemple. Dans ses investissements, parfois, il a besoin d'argent complémentaires. Et par exemple, le fonds d'investissement Euraseo, l'appui est Euraseo qui est-ce, c'est le plus grand fonds d'investissement français, à peu près 50 milliards d'euros d'actifs, qui a été créé à l'origine par la Banque Lazare, donc la plus vieille banque d'affaires française, très chic, très installée dans la vie du capitalisme parisien. Et donc il y a cette porosité qui est importante.
Alors pour bien comprendre, quand vous évoquez justement Vincent Bolloré qui défend les théories du grand remplacement, etc., moi je ne l'ai jamais entendu publiquement prononcer ces mots-là. Vous dites ça peut-être par rapport aux différents investissements qu'il a pu faire ou soutien d'une campagne comme Éric Zemmour, par exemple.
Évidemment, évidemment. En fait, il dit qu'il était démocrate chrétien à l'origine, et je pense qu'il l'était sincèrement. Moi, je l'ai beaucoup côtoyé et rencontré comme journaliste il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et je pense qu'à la fin de sa vie, il y a une sorte de mutation intellectuelle, que Zemmour le convainc du grand remplacement et que son combat, c'est le combat pour défendre l'Occident chrétien.
Si je me permets cette nuance-là, c'est que peut-être la différence entre Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, Vincent Bolloré donc, va le faire peut-être indirectement en poussant, on va dire, quelqu'un comme Éric Zemmour qui, en lui-même, dans son programme, promeut les idées que vous venez d'évoquer, tandis que Pierre-Édouard Sterrin, c'est beaucoup plus affirmé, surtout depuis que vous avez révélé le plan Périclès. Mais on va dire qu'il l'exprime assez librement, qui mène justement à un combat idéologique, politique.
Alors je ne sais pas si c'est très affirmé. Je pense qu'effectivement, ce qui a changé la donne quand même, c'est la sortie de la publication du plan Périclès, qui a effectivement, à son grand dam, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'était pas prêt, c'était pas encore mûr, disons, pour sortir. Peut-être ça l'aurait été à un moment. Peut-être il serait sorti tout seul du bois. Mais disons qu'on l'a sorti du bois l'été dernier.
Pour bien comprendre, Thomas Lemayeux, pardon, Périclès, c'est quoi? Parce qu'il y a peut-être encore des auditeurs qui ne le connaissent pas.
Périclès, c'est un plan d'une vingtaine, enfin pour ce qu'on a sorti à l'Humanité, c'est un plan d'une vingtaine de pages, 24 pages, sous la forme d'un PowerPoint, enfin un document qui est censé être montré dans une réunion avec des cadres, comme si on était justement dans une réunion de start-up. Enfin, c'est une forme de business plan qui consiste à présenter une attaque du champ politique, enfin une attaque au sens là du business. Comment on va faire pour s'emparer du champ politique, pour faire gagner effectivement une union qui rassemblerait la droite dite républicaine et jusqu'aux des formes de centrisme, hein, depuis Édouard Philippe, disons, macroniste, jusqu'à Marine Le Pen, Florent, Bardella, Éric Zemmour,
Jordan
etc.
Bardella.
Jordan Bardella, Éric Zemmour. Et donc, il s'agit de rassembler ces gens et de leur mettre à disposition une série d'outils qui permettront une victoire électorale et politique. Alors, ça passe par les municipales l'année prochaine. Hein, il s'agit de gagner 1000 villes et dont, sur ces 1000 villes, 300 qui iraient au Rassemblement National. C'est écrit dans ce plan qu'on a révélé. Constituer une réserve de futurs hauts fonctionnaires en cas de victoire de cette coalition de droite extrême qui serait capable d'exercer le pouvoir, de prendre les postes dans les entreprises parapubliques, dans les cabinets ministériels, voilà, enfin des gens qui soient formés, ce dont manquait en tout cas jusqu'à assez récemment l'extrême droite.
On l'a vu d'ailleurs aux dernières élections législatives où il y a eu des candidats qui ont été nommés à la hâte, qui ont été désinvestis pour certains. Donc là, il y avait une volonté pour Pierre-Édouard Sterrin d'aider à structurer justement ce mouvement-là, le professionnaliser et donc mettre une partie de sa fortune pour arriver à cet objectif-là.
Oui, il y a une volonté de professionnaliser, effectivement, professionnaliser dans le sens, dans l'esprit d'un tel homme d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a des conceptions, il recrute des gens qui sortent des grandes écoles de commerce, ce genre de choses. Enfin, il s'agit en fait de mettre en œuvre des gens qui seront capables d'exercer le pouvoir. Il y a par ailleurs dans le plan, je termine juste sur le
Bien
plan,
sûr.
Il y a de la guérilla juridique, c'est-à-dire harceler judiciairement ses adversaires, faire des procédures qui sont des procédures bâillons, en quelque sorte, pour, par exemple, empêcher des associations qui défendent les migrants, qui défendent les droits des personnes trans, qui défendent le droit, l'accès à l'avortement, les mettre au tribunal et les pousser à s'épuiser dans des procédures de ce type. Et il y a encore d'autres types. Il y a la constitution de baromètres, d'observatoires, éventuellement l'achat d'un institut de sondage. Il s'agit de construire...
Ce qui n'a pas été encore fait, hein, il me semble.
Ça n'a pas été fait, semble-t-il. Pour le moment, ils utilisent un observatoire qui est financé directement par Périclès, qui a été même constitué en quelque sorte par Périclès, avec l'argent de Périclès. C'est sans doute le plus gros projet de Périclès.
Rappelez le nom de cet observatoire.
Hexagone, et qui consiste en fait à utiliser des sondages, les commander et pour, disons, orienter le débat public dans un certain sens. C'est par exemple eux qui ont dit, que aujourd'hui il n'y aurait aucune instabilité politique en France si les macronistes de droite, les LR et le RN s'alliaient. Donc on voit bien qu'en fait ça coïncide totalement avec le projet de Pierre-Édouard Sterrin. C'est eux qui disent sur la taxe Zucman que certes elle est là, pour les gens qui s'intéressent aux sondages, elle est approuvé par 80% des Français, mais ne vous en faites pas, puisque la plupart des forces politiques n'en veulent pas, etc. Donc ils utilisent les sondages pour mettre le débat public dans un certain sens et l'orienter. Alors ça marche ou pas, hein, mais je veux dire, pour le moment, ça pèse quand même, ça produit des effets, précisément parce qu'il y a les canaux Bolloré qui, eux, sont capables de récupérer tous ces nouveaux interlocuteurs financés par Pierre-Édouard Sterrin.
Et en faire justement une caisse d'amplification. Mais c'est intéressant justement de déconstruire et de comprendre comment fonctionne ce récit-là, parce qu'il est assez subtil. Il y a différents rouages, on le voit bien, Alice Barbe, entre eux justement des observatoires, peut-être des instituts de sondage ou des observatoires qui commandent des sondages, des médias qui vont reprendre justement ces éléments. On sent qu'il y a une volonté d'être actif sur tous les rouages finalement de la naissance d'un récit.
Et surtout, c'est tout ça est très complémentaire. Il a son fonds d'investissement Otium Capital, dans lequel il dit avoir placé plus d'un milliard d'euros. Le fonds du bien commun, dans lequel il reverse des bénéfices, 40 millions il y a deux ans, 80 millions en 2024. C'est deux fois la fondation Total et quatre fois la fondation BNP, hein, quand même. C'est énorme dans la philanthropie française. Et Périclès. Après, il l'a pas vu venir, les révélations que tu as fait, Thomas. Il l'a pas vu venir. Mais je pense qu'il commençait déjà à travailler dessus sur son image publique, parce que ça se voyez. Le fonds du bien commun, il y avait quand même des articles financer des instituts comme l'Institut de formation politique d'Alexandre Pesé, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et qui vise à former des cadres politiques. Et quand on regarde la tendance de ces cadres, depuis 5 ans, c'est plutôt Zemmour et puis un petit peu plus Bardella ces derniers temps. On parle de 5000 personnes qui seraient passées par cet institut et dont une très grande majorité ces 5 dernières années, qui sont aujourd'hui députés, mais surtout qui sont aujourd'hui collaborateurs parlementaires pour le Rassemblement National, mais aussi pour le mouvement de Ciotti.
Donc ça se voit. C'est ça qui est intéressant aussi, peut-être, c'est quels sont les, peut-être rappeler les liens très clairs, établis, factuels, objectifs de la porosité entre Pierre-Édouard Sterrin et justement l'extrême droite française. Parce que j'ai pu lire à droite à gauche qu'il avait été d'ailleurs assez déçu du personnel politique en général, qu'il a rencontré différents interlocuteurs qui vont, comme vous le disiez, de la droite à l'extrême droite, qu'il a cette petite habitude de noter chaque personne qu'il rencontre entre 0 et 10, et qu'il n'a pas
pas forcément mis des 10 partout, mais on sait qu'il y a des gens qui sont passés par Édouard Sterrin et qui travaillent aujourd'hui avec le Rassemblement National, ou inversement.
Et des salariés qui étaient des salariés du Fonds du bien commun, qui travaillent aujourd'hui avec le Rassemblement National, notamment, je pense à une des salariées, Alix Pagny, dont l'époux a été, comme par hasard, investi aux dernières législatives, qui a gagné et qui est aujourd'hui un député, qui participe d'ailleurs aux tentatives d'intimidation sur tout ce qui est guérilla juridique et guérilla médiatique. Je pourrais peut-être revenir dessus, mais à l'occasion, moi j'ai participé à la mobilisation pour quitter X, qui s'appelait Eloquitix, en 3 jours. On a eu une énorme guérilla à la fois via les influenceurs de Sterrin, via les députés qui sont passés par ces écoles financées par Sterrin le lendemain, et par les structures d'avocats financées aussi par Périclès, qui ont porté plainte soi-disant parce qu'on atteignait la liberté d'expression en France, parce qu'on disait aux gens de quitter X.
Pourtant, quel est le lien exact entre Pierre-Édouard Sterrin et sa galaxie de vouloir défendre X? Alors j'entends bien que X a été racheté par Elon Musk, Elon Musk a des idées qui sont peut-être proches, même si on est dans un autre paradigme qui est le paradigme états-unien, mais pourquoi d'un coup vouloir défendre X?
Il est ultra-libertarien et sous couvert de liberté d'expression, qui est aujourd'hui quand même l'arme brandie par toute la sphère ultra-réactionnaire aux États-Unis, c'est un moyen de faire passer ses idées. Il a des liens évidemment avec les États-Unis, Sterrin en plus, il a été en contact avec Paul Manafort, qui a été le directeur de campagne de Donald Trump, qui lui a proposé 10 millions d'euros pour faire gagner l'extrême droite. Il a aussi cofondé, investi dans des fonds d'investissement comme First, FRST, qui aujourd'hui a créé l'Elon Score, donc qui mesure le taux de popularité d'Elon Musk en Europe et le promeut au quotidien.
On revient sur l'obsession de la notation. Cette fois-ci, c'est le score pour Elon Musk, Laurent Mauduit.
Oui, non, il faut bien comprendre le cheminement. Le bouillonnement intellectuel ultra-réactionnaire aux États-Unis fonctionne d'abord depuis déjà très longtemps, 15 ans, 20 ans, dans la tech californienne. Hein, les grands patrons libertariens proches de Trump aujourd'hui, les Elon Musk, les Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui ont d'ailleurs investi ensemble, commencent à gamberger. Ça fait 20 ans que Peter Thiel dit dans un blog, j'en suis arrivé à la conviction que la liberté est incompatible avec la démocratie. Mmh. Et il est assez logique que Sterrin, dont les investissements sont beaucoup dans la tech française, soit le plus à l'écoute de ces mutations qu'il y a eu dans la tech californienne. Ça se comprend, et beaucoup plus que Bolloré, qui lui évolue dans d'autres secteurs. Je voulais juste faire un ajout tout à l'heure sur votre remarque sur Bolloré et Sterrin. Il y a une chose moi, qui me frappe, c'est vrai que Bolloré a toujours parlé par procuration, par ses médias, par ses news. Voilà. Lui, Sterrin, est plus désinhibé. Et donc, il dit des choses. Par exemple, sa déclaration stupéfiante que Mediapart a trouvée en retrouvant une vidéo de lui, où il dit « il faudrait faire en sorte qu'il y ait plus de bébés de souche européenne hein ». On voit bien le caractère identitaire de la déclaration, ce genre de déclaration que Bolloré, lui, a la prudence de ne pas faire devant la commission, devant les deux commissions d'enquête parlementaire. Il ne tient pas ce type de propos.
Alors, Laurent Mauduit, justement, cette déclaration, on l'a, je vous la propose tout de suite de l'écouter.
Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, des exemples d'actions extrêmement concrètes qu'on peut essayer de développer. Hein. Sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeune et faites un maximum de bébés. Deux, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, d'évangéliser de façon plus globale. Il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques. Sur les sujets d'évangélisation, là encore, je pense qu'il y a énormément d'actions extrêmement concrètes qu'on peut tous réaliser en allant voir nos voisins ou en développant des actions plus importantes dans le secteur des médias ou autres, afin de partager la bonne parole.
Voilà, donc la bonne parole, du moins celle de Pierre-Édouard Sterrin. Alice Barbe, justement sur le niveau d'expression de Pierre-Édouard Sterrin.
Oui, en fait, il a une façon très très spécifique de s'exprimer. Alors déjà, quand on a commencé à travailler sur lui avec Thomas, on a vu qu'il avait tout de suite embauché Image 7, une agence de communication d'Anne Méo, qui avait elle-même défendu Fillon, enfin qui s'était occupé de Fillon pendant la campagne.
Spécialisée dans tout ce qui est communication de crise et qui
elle
travaille
fait
beaucoup
la communication
avec
de la moitié politique. La moitié du CAC 40.
Voilà. Quelqu'un de très installé sur la place.
Et ils ont fait un très très bon travail parce que un certain nombre d'éléments qui étaient sur les sites internet du Fonds du bien commun, d'Otium, etc. ont disparu et ont aussi disparu des archives d'internet. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui n'existent plus, qui ne sont plus trouvables en ligne. Et Sterrin, ce qui est intéressant, et on l'a vu très récemment, c'est qu'il ne va pas faire de plateau en direct. Cette vidéo trouvée par Mediapart, c'était à l'occasion d'une conférence, je crois, de prêtres qu'il faisait en visio. La plupart de ses prises de parole, c'est chez lui, en Belgique, en visio. Il fait pas énormément de direct. Il en a fait une fois avec Pascal Praud. Il y avait que sa voix. Et c'était sur l'entrepreneuriat, c'est super, les entrepreneurs de France. Mais à la fin, il est complètement parti en vrille en disant Élise Lucet est très méchante.
Il répond quand même à quelques questions de journalistes. Je sais que Cabine Wiegel-Lecoat, notamment, l'a rencontré dans le cadre de ses papiers et à l'Express et après au Nouvel Observateur. Et je sais aussi que la cellule d'investigation de France Inter, Radio France, a aussi pu, à distance, l'interroger.
À distance, pas souvent en direct. Et je pense que ça peut expliquer aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles il n'est pas venu, il ne s'est pas présenté à l'occasion de la commission d'enquête à laquelle il était appelé sur le financement de la vie électorale.
Alors ça, c'est intéressant. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Périclès, on commence à comprendre ce plan. Et effectivement, les parlementaires se sont interrogés sur, finalement, le spectre d'investissement de cette structure qui est hybride. Hein, vous l'avez dit, vous disiez c'était un PowerPoint un peu comme une start-up, mais c'est pas un parti politique, c'est pas totalement une start-up. On sait pas trop ce que c'est. Et en tout cas, on voulait en savoir plus. Pour en savoir plus, donc, à plusieurs reprises, il a été appelé. C'est même une obligation, normalement, de se rendre et de répondre à la convocation des parlementaires, et il ne l'a pas fait.
Oui, Thomas Lemayeux. Je crois que maintenant, du coup, il est poursuivi, en fait, pour ne pas... Enfin, je pense que là, c'est...
Un délit pénal de ne pas se présenter.
Voilà, il
avec,
a...
Avec quelques milliers d'euros d'amende, mais c'est pas non plus énorme.
Deux ans de prison, deux ans de prison, potentiellement. Hein. Donc, effectivement, le fait de ne pas être venu à trois... d'avoir refusé, esquiver les convocations de cette commission d'enquête parlementaire, voilà, et qu'il a par ailleurs nargué, hein, puisqu'il est allé sur CNews... au moment de la dernière convocation, enfin une demi-heure avant, dire en visio, effectivement, depuis son bureau en Belgique sans doute, qu'il n'allait pas venir faire permettre à des députés de faire les marioles, les imbéciles, avec des dizaines de journalistes avec eux.
Il a invoqué des raisons de sécurité pour son déplacement.
Oui, voilà, il a utilisé, disons, des menaces qui avaient été collées quelques semaines plus tôt à Tours, qui était dans le cadre d'une protestation contre la nuit du bien commun, qui sont ces galas de charité qu'il organise, qu'il a cofondé. Voilà, donc il y avait des gens qui avaient appelé, qui avaient écrit Sterrin décapitation, et du coup il a voulu avancer l'idée qu'il pouvait être menacé très très directement physiquement dans les locaux de l'Assemblée nationale. Oui, donc effectivement cette manière de communiquer, enfin de s'exprimer, elle est très travaillée. Moi je trouve effectivement que c'est quelqu'un de plutôt rare. Hein. Bien sûr, quelques journalistes sont parvenus à le rencontrer. Je leur tire mon chapeau. Moi j'ai essayé encore très récemment de le faire, et il m'a claqué la porte au nez, disons.
Faut dire que vous sortez le plan Périclès avant lui.
Oui, là c'était à vrai dire, enfin je sais pas si on doit aborder cette question, mais vous avez peut-être vu qu'il a en l'occurrence utilisé mon nom, mon patronyme, pour créer une nouvelle holding en Belgique dans laquelle il a placé 1 milliard 400 millions d'euros, ce qui signifie d'ailleurs que contrairement à ce qu'il dit depuis des années, il a encore la main totalement sur son patrimoine, donc il n'a pas perdu le contrôle de son patrimoine. C'est lui qui
juste pour que nos éditeurs comprennent bien. Donc suite à vos révélations de l'affaire Périclès, qui je l'ai dit a fait grand bruit, forcément votre nom a été bien identifié. Et donc très récemment, vous êtes devenu votre patronyme est devenu le nom d'une de ces holdings.
De sa holding de tête, en fait, c'est-à-dire la holding qui contrôle toutes ses holdings belges. Donc, c'est la holding avec laquelle il finance Périclès, qui s'appelle Graal. Sa holding historique, elle s'appelle BAD 21, ça voulait dire base à défendre. C'était une référence à un programme survivaliste, hein, ce qui dit aussi l'imaginaire dans lequel il est. Donc, effectivement, il a accolé mon nom, disons, il n'a pas simplement fait ça, il m'a écrit personnellement pour enfin 15 jours après que je l'ai découvert pour s'en vanter quoi, pour
en dire, vous disant quoi. Non, il vous a écrit quoi, une lettre, un mail?
Il m'a écrit un mail un soir, un jeudi soir à 21h40, en me disant: voilà, cher monsieur, vous vous intéressez beaucoup à mes activités depuis des années, donc j'espère que vous apprécierez le nouveau nom que j'ai donné à ma ligne de tête. Vous pouvez le découvrir en ouvrant la pièce jointe. Et je trouve que j'avais pas besoin d'ouvrir cette pièce jointe pour savoir ce que ça pouvait être. Et c'était effectivement un document administratif qui disait: Pierre-Edouard Sterrin a une nouvelle holding qui s'appelle la Le Maillot Holding.
Comment vous l'interprétez ça? C'est une volonté d'intimidation? C'est quoi? Comment vous le catégorisez? C'est un hommage, c'est quoi?
Ouais, enfin, c'est peut-être plusieurs choses à la fois, je ne sais pas, en fait. En tout cas, c'est un pied de nez, enfin, c'est peut-être une blague. C'est en tout cas ce qu'il a l'air de vouloir, enfin, c'est ce qu'il fait passer comme message. Mais en disant que c'est pas du tout un ciblage personnel, mais comme c'est mon nom, c'est un ciblage personnel, de toute évidence. Et que par ailleurs, il a l'air de me considérer comme un ennemi, ce qui est pas... Moi, je suis journaliste, en fait, je fais mon travail, je travaille sur ce personnage parce que c'est d'intérêt général, tout le monde se met à en parler, etc. Donc le fait qu'il me traite comme un ennemi et pas comme un adversaire, ces gens ont un vocabulaire particulier, je veux le dire de manière... par exemple, enfin, on a parlé de... Vous avez parlé ici de Charlie Kirk la semaine dernière. Toute la discussion aux États-Unis, elle reprend les termes de Carl Schmitt sur amis, ennemis, la politique, c'est les ennemis, etc. Moi, je prends pas tout à fait à la légère le fait que Pierre-Edouard Sterrin, qui est avec sa puissance, me considère comme son ennemi. Moi, je suis journaliste, donc je c'est sans doute une blague et un pied de nez, mais il y a un ciblage personnel.
Vous vous sentez menacé?
Non, je ne sens pas de menace concrète, mais je sens que je suis ciblé et que ce discours sur les ennemis, on parlait tout à l'heure de l'Institut de formation politique. Il se trouve que, par exemple, Alexandre Pezet, qui est la tête de pont des réseaux entre Pierre-Edouard Sterrin et les Américains, la Heritage Foundation, ce genre de choses, se vantait ces derniers jours que la promotion de son dernier séminaire, c'est-à-dire des formations de 2 jours, pour effectivement des gens qui sont de droite et d'extrême droite, porte le nom de Charlie Kirk. Je veux dire, à partir du moment où ces gens apporte cette conflictualité qui est devenue quand même extrêmement violente, qui vient des États-Unis, l'apporte ici. Moi, je prends pas tout à fait ça non plus. Je suis assez tranquille, mais disons, je reste prudent.
Voilà. Soit on est avec lui, soit on est contre lui, si on comprend bien ce que vous dites. Laurent Mauduit.
Thomas Le Maillot, qui a fait un travail formidable d'investigation, parle, je trouve, avec modestie de son travail. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Bolloré a construit un univers médiatique avec des médias qui professent la haine. Et la plupart des syndicats de journalistes, dans le cas de Thomas, comme les sociétés de journalistes qui ont fait des communiqués, ont interprété l'appellation de son fonds sous le nom de Le Maillot comme une mesure d'intimidation. On est dans une époque où les journalistes qui font honnêtement leur travail sont la cible. Chacun a sa façon, il y a 1000 façons, mais on sait que Bolloré est très procédurier. On a beaucoup de mal à écrire sur lui sans être confronté à des procédures bâillons, c'est-à-dire des procès juste pour intimider et faire taire. On est dans la même galaxie d'intimidation entre Bolloré et Sterrin. Ce sont des pratiques, les formes se diffèrent, mais le but est le même.
Pour faire taire. Pourtant, quand j'écoute Pierre-Edouard Sterrin, on l'a d'ailleurs entendu dans le montage qui a été fait par notre réalisatrice Camille Maty, il dit qu'il veut devenir un saint. C'est vraiment son objectif. Et pour devenir un saint, il faut qu'il fasse le bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le fond du bien commun. Et donc lui, il dit, finalement, mon argent, je ne vais pas le donner aux impôts, puisque je n'ai pas de confiance finalement dans la manière dont l'État français utilise ses impôts. Et là, on revient justement à la notion un peu libertarienne, c'est-à-dire que l'État doit juste être cantonné au pur aspect régalien, et encore, il y a quand même une volonté de s'affranchir de l'État. Et lui, serait mieux que l'État français comment utiliser cet argent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il pense utiliser cet argent pour faire le bien. Donc quand on veut faire le bien, généralement, on ne cherche pas à détruire l'autre.
Alors, c'est vrai que Thomas tout à l'heure, vous avez passé un extrait de cette conférence qui a fait un peu scandale cet été, effectivement, sur laquelle Mediapart a écrit en premier, mais qui est donc datée du mois de juin. C'est une conférence qui a été donnée à l'Institut du Bon Pasteur, c'est-à-dire une congrégation traditionnaliste dont la figure de proue est l'abbé Mathieu Raffray, qui prône un catholicisme viril. C'est quelqu'un qui s'affiche avec des fusils, ce genre de choses. Et moi, je pense que nos auditeurs devraient écouter cette conférence en entier, en fait, parce qu'elle est exemplaire, elle nous intéresse aussi ici, puisque on est dans la fabrique de l'information. Il est beaucoup, beaucoup question de médias, de journalisme, et Pierre-Edouard Sterrin dit à un moment que les médias sont gangrénés par le camp du mal. C'est pour ça que quand je parle d'ennemis, enfin je veux dire d'adversaires, enfin de gens qui ne sont pas justement des adversaires, mais des ennemis, cette conception effectivement du bien, du mal, et le mal, c'est Satan, c'est le diable en fait. Nous sommes, enfin on pourrait être comparé à ça. C'est très très exemplaire de la manière dont il conçoit les choses, et c'est vrai que dans cette conférence, il est question de comment il se positionne aujourd'hui sur les médias. Est-ce que le champ médiatique, finalement, est plus ouvert aujourd'hui aux idées traditionnalistes, aux idées de Pierre-Edouard Sterrin? Il parle avec un journaliste, le débat est animé par un journaliste de France Catholique, le premier journal qui a été acheté par Bolloré. Il y a Gabriel Cluzel, qui est la dirigeante de Boulevard Voltaire, donc quelqu'un d'assez marqué, qui est sur tous les plateaux Bolloré en permanence, et qui dit leur camp est en train de marquer des points, qu'il est aujourd'hui beaucoup plus simple pour eux de faire valoir leurs idées, de faire valoir leurs vérités, ce qu'ils appellent des vérités, c'est-à-dire grosso modo des petits témoignages recueillis dans les cafés du commerce, par exemple. Gabriel Cluzel parle d'un enseignant à qui les élèves auraient empêché de donner un cours sur un tableau de Courbet parce qu'il y avait une croix dessus, ou d'un huissier qui aurait constaté dans les vestiaires de la RATP qu'ils étaient transformés en mosquée. On est sur des choses qui sont totalement inventées. Je veux dire, ou en tout cas gonflé. Toute cette fabrication du journalisme, et c'est à ça que travaille Pierre-Edouard Sterrin. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a racheté ce matin Valeurs Actuelles. On peut imaginer que ça ne changera pas radicalement la ligne en tant que telle. On verra d'ailleurs si le rachat va au bout. Mais parmi les deux partenaires avec qui il est, il y en a un qui s'appelle Alexis Caude, qui est le mari de Alexandra Henrion Caude, qui est une complotiste anti-vax, ancienne généticienne de grand talent, mais que la crise du Covid a fait complètement déraper sur les délires qu'on peut voir à l'œuvre en fait aux États-Unis chez Trump, et donc on verra ce que ça donne sur le journal. Peut-être la menace finalement pour Valeurs Actuelles ne sera peut-être pas ce terrain, puisque ça correspond à leurs idées, mais plus de les voir glisser vers une forme de complotisme, ce genre de choses. Et donc tous les autres médias dans lesquels il investit,
c'est des petites choses, même si tout de même, puisqu'on parle de médias, Alice Barbe, on a vu justement qu'il avait voulu racheter Marianne, je l'ai dit en préambule de cette émission, et ça a échoué. C'est-à-dire que la mobilisation aussi peut-être de la rédaction a fait qu'il n'a pas pu s'emparer de l'hebdomadaire Marianne.
Ah, ça a échoué au moment où Périclès est sorti, parce que la discussion était déjà enclenchée depuis bien longtemps.
Réaction tardive.
Réaction très tardive. L'émissaire de Sterrin, d'ailleurs, c'était Arnaud Montebourg, qui travaille. Ils travaillent aujourd'hui ensemble. Arnaud Montebourg dirige.
Assez étonnant, d'ailleurs.
Une des entreprises dans lesquelles on investit.
On va laisser Alice Barbe terminer.
Pas si étonnant. On a eu des conversations. Moi, j'ai eu des conversations avec des journalistes de la rédaction de Marianne. Je leur disais, mais si c'était Bolloré, ils disaient, ah bah non, pas Bolloré. Je dis, mais Sterrin, c'est pire. Et il a fallu sortir Périclès, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand il s'agit de fascisme, parce qu'il faut le nommer, il faut du courage, parce que c'est tellement infusé dans la société qu'on peut...
Attendez, quand vous dites fascisme, c'est-à-dire que quand vous considérez que Pierre-Edouard Sterrin, c'est du fascisme?
Oui.
C'est
des relents de France Éternelle, c'est des attaques incessantes à travers tous les organismes qu'il finance aux droits des femmes, à l'IVG, à des droits absolument fondamentaux, au mariage pour tous, aux personnes trans. Il finance un nombre incalculable à la fois d'activistes, enfin de semi-activistes qui ne sont pas des activistes, mais et aussi d'influenceurs. L'image d'une armée d'influenceurs, 45 influenceurs en France d'extrême droite qui dépassent le million de vues par mois, qui sont soutenus aussi par des organismes organisations de Pierre-Édouard Sterrin. Je pense à des femmes comme Thaïs Descuffon, par exemple, qui est connue pour expliquer que plus une femme a de rapports sexuels, moins elle est capable de faire des enfants ou d'être une bonne épouse.
Non, bien sûr, mais j'entends se véhiculer effectivement cette vision traditionnaliste de la société. Et on l'entendra d'ailleurs justement sur un des médias qu'il a arraché, qui est Lou. Est-ce que c'est pas pour autant du fascisme? C'est-à-dire qu'il peut avoir des croyances justement de penser, bon, voilà, que les femmes seront mieux au foyer que dans la vie active. Bon, son schéma de pensée, c'est pas. Je sais pas si on peut quand même appeler ça du fascisme. Si on prend cet exemple-là.
Si on prend l'exemple
peut-être de l'antidote. Ouais.
On est peut-être dans une ère pré-fasciste et pré-technofasciste, mais Pierre-Édouard Sterrin, il participe d'une dynamique de modernisation, d'une idéologie que je ne pensais pas voir encore exister en 2025 et je pensais voir mourir. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces investissements, force est de constater que quand même, il y a un retour à la France éternelle de Pétain. Il y a quand même un gros soutien à la fois aux idéologies politiques, mais aussi à des courants de société qu'on ne pensait pas revoir un jour. Et on vit un énorme bac clash que Sterrin
en retour en arrière.
Oui.
C'est un débat très important qui a lieu aux États-Unis en ce moment. Comment faut-il qualifier le libertarianisme? Certains chercheurs ou universitaires...
Sachant qu'il y a plusieurs libertarianismes, hein, c'est aussi un mouvement pluriel. Hein.
Bien sûr, mais certains chercheurs disent voilà, c'est un mouvement autoritaire. D'autres disent non, il faut le qualifier de fasciste. Pour quelle raison? Si vous prenez Peter Thiel, donc le fondateur de PayPal dont je parlais tout à l'heure, il a été très influencé par un blogueur très connu en Californie, Curtis Yarvin, qui a déclaré il y a 20 ans « Mais que reproche-t-on donc aux nazis ?» Il y a des courants de l'extrême droite américaine qui ont fait cette jonction-là et qui fait comprendre que le salut hitlérien d'Elon Musk le jour de l'investiture vient de loin. C'est pas la bouffonnerie d'un clown dangereux. Et donc, le fait de qualifier de fasciste ce courant intellectuel qui risque de se propager en France ou dont on sent que le virus se rapproche, moi, ça me semble la bonne caractérisation. Alors, c'est pas le fascisme originel, c'est pas le fascisme italien, ce n'est pas la même construction. Mais je trouve que la qualification d'autoritaire ne permet pas de comprendre la nature réellement très antidémocratique de ce mouvement de pensée.
Voilà, et je renvoie justement à l'ouvrage Olivier Desquet de Natacha Adjadi qui est sorti aux éditions Divergence sur le technofascisme Apocalypse Nerds. Donc pour vous, pour bien comprendre finalement, Pierre-Édouard Sterrin, c'est la figure la plus libertarienne, on va dire, que l'on connaît dans notre paysage médiatique, et il est peut-être aujourd'hui une sorte d'incarnation de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ou ce qui pourrait se passer dans quelques années chez nous.
Moi, je partage évidemment ce que dit Laurent sur son libertarianisme, ce genre de choses, mais je dirais, il reste malgré tout encore un peu insaisissable. On ne sait pas exactement ce qu'il pense. Exactement, on voit avec ses alliances avec les crypto-monnaies, enfin, c'est-à-dire ces techno-fascistes américains. Enfin, le secteur des crypto-monnaies a pris était par exemple très très bien représenté au sommet des libertés qu'il a organisé avec Bolloré au mois de juin. Ils étaient là, les bitcoins, etc. Et le but, effectivement. Ça correspond à ça, c'est-à-dire technofascisme, libertarianisme. Moi, je dirais, il y a aussi, mais ces courants se recoupent, alors qu'ils paraissent contradictoires. Moi, je vois aussi des liens avec une idéologie qui est celle de J.D. Vance, qui est dite post-libérale, c'est-à-dire, bon, anti-libérale presque, mais anti-libérale non pas au sens économique, évidemment, anti-libérale au sens politique et culturel. Il s'agit et là, pour le coup, c'est autoritaire, il s'agit, au fond, quel que soit le régime politique, que ce soit une monarchie, mais en tout cas pas une démocratie, ça ne les gênera jamais. Il faut réinstaurer une morale chrétienne, catholique, chrétienne aux États-Unis, mais ce sont des catholiques quand même autour de J.D. Vance. Réinstaurer cette morale pour, donc sur les questions d'avortement, sur les questions de genre, enfin leurs obsessions qui sont quand même extrêmement fortes, qui en France arrivent, et on se demande un peu pourquoi, parce que quand même on est assez éloigné sur ces questions, mais sur la question du fascisme aussi en tant que tel. Moi, je voudrais dire qu'en début d'été, je suis allé assister à un spectacle à Moulins qui s'appelle Murmures de la cité, dont je crois qu'il en a été question, y compris sur cette antenne. Il y a eu des débats avec des historiens qui ont dit que c'était un spectacle révisionniste, etc. Et c'est effectivement un spectacle révisionniste qui a été écrit est mis en scène avec des subventions publiques et des subventions de Sterrain et des subventions d'un incubateur racialiste lié à l'Institut Iliade, qui est vraiment la frange la plus suprémaciste qui peut exister dans l'extrême droite. C'est Jean-Yves Le Gallou, par exemple. Donc ces gens ont mis en scène et écrit un spectacle qui commence avec 5 minutes de croix gammée qui s'affiche sur les murs d'un musée public. Alors, on nous dit que c'est parce que on représente l'occupation, tout ça. Mais enfin, quand on sait que les auteurs de ce spectacle sont des admirateurs de Brasillac, de Bardèche, c'est-à-dire d'écrivains collaborationnistes, fascistes, qui ont été fusillés, enfin, Brasillac a été fusillé, Bardèche a pu continuer ses activités, notamment en devenant révisionniste, etc. Je veux dire, effectivement, le lien existe. Moi, c'est vrai que j'avoue que en tant que moi, j'ai commencé à m'intéresser à Pierre-Edouard Sterrain il y a 2-3 ans. Effectivement, je me suis dit c'est un philanthrope chrétien, catholique. Il veut devenir saint. Au fond, il finance des causes réactionnaires. Au fond, mais c'est vrai que c'est pas des fascistes. Enfin, je me suis dit ça. Mais plus on cherche, plus on le voit apparaître, plus on le voit apparaître en lien avec des gens qui sont des fascistes. Donc il y a un moment où il faut que tous les gens qui sont prêts à prendre l'argent de Pierre-Edouard Sterrain ou à faire des compromis avec lui, à un moment il faudra qu'ils choisissent. Sera les fascistes ou autre chose.
Alors justement, on parle de l'argent de Pierre-Edouard Sterrain. On a bien cheminé depuis justement ces smart box jusqu'à la manière dont tout cet argent a été fléché. On a parlé des médias traditionnels, je l'ai dit, avec Marianne, qui n'a pas réussi à obtenir. On aurait pu aussi parler du groupe Bayard, où il a voulu installer justement un de ses très proches à la tête justement de ce groupe Bayard. Là aussi, ça ne s'est pas fait totalement comme il l'avait prévu. On a appris aujourd'hui qu'il vient de racheter Valeurs Actuelles. Pas très étonnant, puisqu'on a une ligne éditoriale qu'on va dire déjà plus proche de ses idées que ne l'aurait pu l'être Marianne. Mais il investit également dans l'espace numérique, dans le champ numérique. Vous avez parlé d'agences d'influenceurs. Il y a aussi des comptes. On peut parler de Néo, qui est très présent justement sur les réseaux sociaux, qui va promouvoir une sorte de France des terroirs. Et puis on a aussi Lou, qui est un autre média et qui s'intéresse à la question du genre. On écoute tout de suite un extrait.
J'adore la maternité, j'adore être enceinte. J'ai du mal à me dire, à 33 ans, ma fonction de reproduction est terminée. Je ne porterai plus la vie. Salut Lou, je suis Agathe Vérac et aujourd'hui, on va parler du deuil de la maternité. C'est le fait de se dire que l'on n'aura plus d'enfants. Et ça peut toucher deux personnes, donc à la fois les personnes ménopausées qui, là, pour le coup, se disent ce n'est plus possible. Et moi, je parle encore plus des femmes qui peuvent physiologiquement encore tomber enceinte, avoir une grossesse et qui se disent quand même en fait là je n'en aurai plus pour différentes raisons et pour autant se disent c'est quand même dur d'accepter de dire que je ne porterai plus la vie. C'est un peu une nouvelle crise identitaire où on doit réapprendre à être de nouveau une autre femme. On a d'abord appris à être mère, ça nous a un peu chamboulé au niveau de notre identité et puis quand on retrouve un peu d'espace et qu'on se dit en fait là il se passera plus rien dans mon ventre, eh bien ça peut aussi est difficile de se dire, maintenant, qu'est-ce que je fais, qui je suis, comment j'occupe mon temps.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
La fabrique de l'information et aussi l'analyse des récits médiatiques. On est en train de comprendre comment justement celui de Pierre-Edouard Sterrain s'installe dans le paysage français. Nous sommes en compagnie de Laurent Mauduit, qui est journaliste, tout comme Thomas Lemayeux et Alice Barbe. Alice Barbe, j'ai cité quelques justement exemples. Vous êtes activiste et la fondatrice de l'Académie des futurs leaders. Je vous en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. C'est assez subtil aussi la manière dont il va investir ces différents espaces, parce que il va mettre un peu d'argent dans ces médias-là, il va essayer de se les réapproprier, il y a ces influenceurs. On sent qu'il a pris conscience très tôt justement que l'espace numérique informationnel était un levier d'action important pour la propagation de ses idées.
Et au-delà de la propagation des idées, une capacité de mobilisation très forte. N'oublions pas que Trump a une armée de trolls uniquement parce que son ancien conseiller Steve Bannon, à l'époque, avait créé Breitbart Tech, qui travaillait chez Breitbart, qui est l'ancêtre de Cambridge Analytica, et avait identifié le fait que tous les gamers n'avaient pas de communauté politique et avait instrumentalisé ces gamers dans les années 2010 pour en faire les armées de trolls. C'est des outils de mobilisation aujourd'hui de ce terrain qui sont visibles et moins visibles. On se rend pas compte quand on scrolle sur TikTok, sur Instagram et qu'on tombe sur une vidéo supposément humoristique artistique, par exemple, d'une structure financée par Sterrin qui s'appelle Les Films à l'arrache, qui parle de mettre des préservatifs véganes parce que il faut être écolo, que tout ça est pensé dans une guerre annoncée anti-woke. Il y avait même une vidéo qui disait deux femmes qui échangeaient, l'une dit j'ai perdu mon chat, oh c'est tellement triste, en prends un autre, non je vais prendre un migrant, ah mais c'est quelle race, mais ils sont propres, enfin c'était absolument...
J'ai écouté ce sketch effectivement avec une analogie totale entre un animal et puis et un migrant, donc une volonté d'animaliser totalement un être humain.
2,5 millions de vues. Donc ça crée des communautés, ça crée des interactions. Il y a aussi le côté influence slash associatif. Il y a une association moi, qui m'interpelle énormément qui s'appelle Éclat de Femmes, qui est financée par Pierre-Édouard Sterrin, qui vise à accompagner les femmes victimes de violences, victimes de viols. Ça a été fondé par une dame qui s'appelle Claire Géronimi, qui a été elle-même victime de viols. Sauf que ce qu'elle dénonce, c'est les viols commis par des personnes sous OQTF. Et l'autre jour, je me promenais boulevard Bonne Nouvelle et je tombe à Paris sur des militantes qui collaient des affiches en disant « grande mobilisation, rejoignez-nous au procès de l'agresseur de la fondatrice d'Éclat de Femmes. » Et donc, ça crée des mobilisations qui, finalement, confisquent aussi la parole aux féministes. Anne-Cécile Mailfer, la présidente de la Fondation des Femmes, s'est exprimée sur les réseaux sociaux ce matin pour en parler, parce qu'elle dit, finalement, ces mobilisations-là sont des confiscations de nos luttes pour promouvoir un agenda qui, sous couvert de féminisme, se veut en fait raciste. On sait que partout où l'extrême droite domine et est au pouvoir, les droits des femmes reculent. Et en plus, c'est un peu des taquets gratuits aussi pour toutes les femmes qui se mobilisent et se battent assez brillamment.
Laurent Mauduit, quand on s'intéresse aux affaires de Pierre-Édouard Sterrin, encore une fois, assez compliqué à analyser dans leur ensemble. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'intermédiaires. Parfois, on sait qu'il investit, mais c'est quelques milliers d'euros d'ici. Puis pour d'autres, ça peut être des montants plus importants. Mais on a lu récemment qu'il avait des problèmes financiers. J'ai pu lire ça dans la presse, qu'il gagnait moins d'argent, qu'il y avait des volontés de rachat d'entreprises ou de vente d'entreprises qu'il n'a pas pu faire. Quel est l'état finalement de ses finances et de sa capacité réelle d'investissement?
Écoutez, j'ai du mal à vous le dire. Il y a eu un article, c'est Libération, qui suggère qu'il rencontre des difficultés politiques. Ce que dit Thomas...
Financière.
Ce que dit Thomas sur le capital détenu dans son fonds, dans sa holding de tête, le fait qu'on peut légitimement douter. Et le second doute que j'ai, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il est... appuyé par une partie du capitalisme parisien, qui est en partie solidaire. Il y a des co-actionnaires, donc j'aimerais avoir d'autres indices pour aller dans le même sens que Libération.
C'est malveilleux.
C'est vrai que ces quelques articles sont révélateurs de... Je ne sais pas effectivement moi s'il a des difficultés financières, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui touche, pour le moment, enfin maintenant qu'il est identifié, ça marche pas très bien, quoi. Je veux dire, il a passé l'été, par exemple, tout l'été, il y a eu des articles dans la presse quotidienne régionale, parce qu'on avait révélé au début du mois de juillet que, avec sa holding historique belge, donc pas celle qui porte mon nom désormais, mais il avait pris des parts dans une entreprise qu'a lancé un de ses partenaires avec lequel il avait cofondé la Nuit du Bien Commun, donc une entreprise qui compte faire des fêtes populaires, des fêtes traditionnelles, une franchise de fêtes populaires en France, et qui a créé un label qui s'appelle Les Plus Belles Fêtes de France, avec lesquelles qui a labellisé des fêtes dans tout le pays. Et à partir du moment où des gens dans tout le territoire ont réalisé qu'en fait ils étaient associés, leur fête qui peut avoir des décennies voire des siècles d'existence associée à Pierre-Édouard Sterrin, certains se sont désengagés. Ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'il est identifié, effectivement, il faut que les gens se positionnent.
Alors, c'est ce que je voulais dire un peu sur la mobilisation sur Marianne et même sur Bayard. C'est que, parce que moi, j'ai le grand souvenir de Vincent Bolloré aussi, au moment où il veut acheter iTélé. Il y a une grève extraordinaire de 90 jours. Et pour autant, il finit par l'acheter. On se rappelle du JDD aussi, il y a un mouvement de protestation. Il finit par mettre la main sur ses gens. Europe 1, il y a eu un faible. Mais il y a eu quand même un moment de protestation, il finit par obtenir les fréquences ou les médias. Là, on voit que ça résiste.
Vous avez complètement raison, parce que Bayard, en l'occurrence, Bayard, c'était pas Pierre-Édouard Sterrin qui était à la manœuvre directement, sans doute. Enfin, je pense que c'était son ancien bras droit qui avait géré le Fonds du Bien Commun, qui allait devenir numéro 2 du groupe.
C'est ça.
Allemand du Rostu. Et donc, effectivement, immédiatement dans le groupe Bayard, qui est quand même une grande institution de la presse française et qu'on ne peut pas associer à ces courants, en tout cas qu'on ne pouvait pas historiquement associer à des courants traditionnalistes du catholicisme français. C'est aussi un groupe jeunesse.
Bien sûr.
Et donc les salariés se sont mobilisés et en une semaine, il y a eu une grève d'une heure, je crois. Enfin, en une semaine, ils ont réussi à faire plier leur direction qui voulait faire ça. Donc effectivement, il y a des formes de résistance qui peuvent s'organiser. Je ne pense pas qu'elles auront la même nature, par exemple, à Valeurs Actuelles, ça m'étonnerait. Mais en l'occurrence,
aucune raison.
Il y a aucune raison, effectivement. Mais effectivement, quand il apparaît, et dans des milieux qui peuvent être des milieux qui ne sont pas des milieux de gauchistes ou d'extrême-gauche, voire de gauche, je veux dire, il y a quand même des réticences. Et dans l'Église catholique, en l'occurrence, après l'épisode Bayard, le représentant de la congrégation des assomptionnistes, qui sont les détenteurs du capital de Bayard, a dit un mois plus tard que la place que Bolloré et Stérin occupaient aujourd'hui dans l'Église était extrêmement gênante. Ils polluaient le débat avec leur argent. Enfin, je veux dire que quelqu'un comme lui, qui précisément n'est quand même pas non plus quelqu'un de l'ultra-gauche, se met à dire ça, ça veut dire qu'il y a des formes de résistance. Il y a bien sûr des formes dans l'Église de résistance des catholiques, des chrétiens de gauche, comme on dit, mais qui sont aujourd'hui quand même assez résiduelles. Il y a des formes de résistance possibles, en tout cas, à ces menées, quoi.
Alice, très rapidement, parce qu'il faut aller vers une autre résistance après, qui est celle qui va être décrite par Daniel Bastard sur la Gen Z.
Je suis la première à encourager toute forme de résistance. D'ailleurs, il y a aussi un média qui vient de naître qui s'appelle Le Cri, par des personnes catholiques progressistes. Mais malheureusement, je diverge un petit peu sur le fait que tout ce qui touche peut potentiellement se casser la gueule. C'était le titre du Nouvel Obs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont des proxys de Pierre-Edouard Stérin qui font de l'investissement. Je parlais de First, FRST, le cofondateur de Payfit, d'une entreprise de logiciels RH. Florent Fournier a fondé une entreprise de surveillance de masse à travers le Big Data avec de l'argent qui venait de cet écosystème. En fait, on ne sait pas, et la galaxie est tellement énorme que c'est un travail permanent que doivent faire les journalistes, les activistes, les associations, les syndicats, que de convaincre, dénoncer et expliquer avec beaucoup de pédagogie ce qu'il y a derrière.
En tout cas, même si on parle de quelques problèmes financiers, on rappelle qu'il est quand même dans le top 100 des plus grandes fortunes françaises, qui vient donc d'acheter avec deux autres entrepreneurs Valeurs Actuelles. Donc, a priori, les finances sont encore suffisantes. La protestation, la mobilisation, elle se joue aussi loin de ce studio parisien. Daniel Bastard, vous êtes journaliste à Courrier International. Rebonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes notre partenaire et vous allez nous parler justement de cette génération, la génération Z.
France Culture, la fabrique de l'information.
Et vous nous parlez aujourd'hui des révoltes de la jeunesse qui embrassent une partie de l'Asie et qui font l'objet d'un dossier dans Courrier International.
Oui, il y a d'abord une image. Une foule qui déborde des barrages de police, un portail de fer qui chancelle et bientôt des milliers de pas qui résonnent dans les grandes salles du palais gouvernemental. Cette scène, c'est ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines au Népal. C'est le journaliste indien Yashra Sharma qui fait cette description dans un article publié par Al Jazeera et repris dans Courrier International cette semaine. Alors, Yashra Sharma, c'est un journaliste indépendant, chevronné, qui a fait ses classes au Cachemire indien, autre lieu de révolte et de répression. Et ce qu'il décrit, c'est donc le Népal en septembre 2025. Mais c'est aussi le Bangladesh en 2024 et le Sri Lanka en 2022. Il s'agit là de 3 mouvements portés par la jeunesse qui ont réussi à faire tomber de vieux dirigeants qu'on croyait indéboulonnables. Une conjonction de révoltes qui pose une question vertigineuse, poursuit l'article. L'Asie du Sud, la région la plus peuplée du monde, est-elle en train de devenir l'épicentre des révolutions de la génération Z ? Alors attention, ces 3 mouvements ont naturellement leur propre logique. Au Népal, c'est l'interdiction des réseaux sociaux, le 4 septembre, qui a mis le feu aux poudres. Et la répression policière qui a fait 72 morts n'a fait qu'envenimer les choses. Au Bangladesh, l'année dernière, tout est parti d'un mouvement étudiant, lequel a été débordé par le reste d'une jeunesse qui n'en pouvait plus du pouvoir autoritaire de la première ministre, Sheikh Hasina. Et 2 ans plus tôt, au Sri Lanka, c'est l'effondrement économique du pays avec une inflation à 50% qui a tout déclenché. Mais à chaque fois, il y a une constante. C'est d'abord cette Gen Z, comme on appelle les jeunes nés dans les années 2000, qui a servi d'avant-garde à ces révoltes.
Et comment on peut expliquer ce phénomène ?
Alors, il y a des facteurs démographiques évidents. Dans les 3 pays, la moitié de la population a moins de 28 ans, elle est alphabétisée à plus de 70%. mais le niveau de vie, en revanche, est nettement inférieur à la moyenne mondiale. Or, si cette Gen Z manque de capital économique, elle dispose, en revanche, d'une ressource absolument déterminante, les réseaux sociaux. Et oui, c'est la première génération qui n'a pas connu le monde sans Internet. Elle est ultra connectée et c'est bien cela qui fait la différence. C'est en tout cas ce qu'explique une analyse publiée dans le quotidien indonésien Kompas, qu'on a reprise aussi dans le courrier international de cette semaine. Et c'est pas un hasard si cette analyse est proposée par ce quotidien indonésien Kompas, car l'Indonésie est elle-même traversée par de nombreux soulèvements de jeunesse depuis maintenant plusieurs mois. Contre le népotisme, contre la corruption, contre les inégalités sociales, l'article décrypte ces nouvelles formes de mobilisation politique induites par cette Gen Z. Des jeunes qu'on a souvent décrits comme apathiques, trop paresseux, trop absorbés par le défilement sans fin des informations sur leur téléphone. Erreur fatale, nous dit l'article. Ce que les vieilles élites n'ont pas compris, c'est que même faire défiler des contenus sans but précis peut devenir politique. Les dirigeants se préparent encore à réprimer les foules dans la rue, alors que le véritable soulèvement a déjà commencé dans la section commentaires des plateformes. Le récit de la résistance, nous dit Kompas, n'est plus porté par les organisations militantes traditionnelles, mais par des comptes TikTok ou Instagram. D'ailleurs, au Népal, c'est après un vote organisé sur le réseau social Discord qu'a été désignée celle qui assure désormais la tête du gouvernement par intérim, la magistrate Sushila Karki.
Ouais, d'ailleurs, incroyable ça comme phénomène. Ces révoltes de la Gen Z présentent une autre caractéristique, Daniel, c'est leur dimension transnationale.
Eh oui, les jeunes révoltés du Népal se sont clairement inspirés de celles et ceux qu'ils ont vus se soulever au Bangladesh un an plus tôt, lesquels s'étaient eux-mêmes inspirés du Sri Lanka. Chacun puise dans les expériences de mouvements étrangers pour les adapter à sa propre réalité. La Gen Z, poursuit l'article, se vit comme une communauté mondiale soudée par les mêmes combats. Alors, forcément, une question se pose, qui est le prochain sur la liste? Un début de réponse nous est donné par un éditorial du journal en ligne Scrollin, repris aussi dans notre dossier. Scrollin, c'est l'un des rares médias encore indépendants en Inde, où l'essentiel de la presse grand public est aligné sur le gouvernement nationaliste du Premier ministre Narendra Modi. Or, nous dit Scrollin, ce qui a toujours préservé l'Inde d'une révolution, c'est la force de sa démocratie, laquelle a favorisé en 70 ans d'histoire des révolutions silencieuses comme l'accession au pouvoir des représentants des basse caste. Problème, depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir en 2014, la démocratie indienne est bien mal en point. Une presse libre harcelée, des manipulations du système électoral, un parti qui se maintient au pouvoir en surfant sur la haine des minorités.
La haine des minorités, désolé de vous couper Daniel, c'est là-dessus que l'on va pouvoir finir cette chronique en sachant que la révolution de la Gen Z ne fait que commencer.
Exactement.
Merci beaucoup à vous et à Courrier International. C'est et merci bien. Également à nos trois invités d'avoir éclairé la galaxie Stérin qu'il conviendra de ressolliciter pour mieux comprendre justement la portée de son projet. Et je renvoie à vos travaux respectifs à vos ouvrages, votre ouvrage Laurent Mauduit, collaboration enquête sur l'extrême droite et le milieu des affaires, et Thomas Lemayeux, bien sûr, au document Périclès que l'on peut retrouver sur votre site, et Alice Barbe à l'Académie des futurs leaders. Tout de suite, c'est déjà l'heure de retrouver le book club de Marie Richeux. Je remercie à la réalisation Camille Mathy, à la technique Félix Delacour, à la vidéo Vincent Ronet, et à la préparation de cette émission Joséphine Reinhardt.